Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Aouizerat, philosophe, entrepreneur et urbaniste, créateur de Mob Hotel et de Mob House, puis du mouvement hein, Mob.
Oui, c'est un mouvement, ouais.
Tu fais plein de trucs, en fait. Hein.
Bon, on essaie de canaliser ma gestion d'une forme de gloutonnerie nocturne qui me pousse à créer des projets. Et puis le jour, j'essaie un peu de les réaliser. Voilà, mais avec l'âge, je commence un peu à, non pas à arrêter de faire des projets, mais à rationaliser plus, à être un peu moins dans une forme de combat un peu à la Don Quichotte de ma propre vie. Voilà.
Alors, parle-moi un peu des mobs.
Alors, les Mob Hotel, c'est un projet que j'ai voulu initier. D'abord, ça a commencé à Brooklyn, c'est un restaurant que j'ai créé en 2009, à l'époque avec Alain Sandrin, qui est un chef étoilé,
trois étoiles. Et tu es hôtelier, c'est vrai que ouais. Tu es hôtelier aussi.
Alors, j'étais déjà. Voilà, j'étais déjà hôtelier puisque j'avais créé Mama Shelter avec mon camarade Serge Trigano et sa famille. Et donc, en 2009, j'ai voulu créer une sorte de petite respiration dans ma vie qui était d'aller ouvrir un lieu à New York, et on s'est installé à Borough Hill, qui est un quartier vraiment un peu dans le sud de Brooklyn. Et l'idée, c'était de convaincre par le goût qu'on pouvait faire de la nourriture végane dans un quartier très populaire. Donc, c'était
notre...
C'est 2009.
Ah, 2008, on a commencé. T'avais déjà moins de végane. T'étais déjà un peu...
Voilà. Donc, on a... Et surtout, j'ai voulu convaincre Alain Sandrin, qui est vraiment un viandard, qui était un viandard, puis qui nous a quittés depuis, et qui est un chef français étoilé, 3 étoiles Michelin, et qui est un type assez punk, et qui a travaillé avec moi, et Neil Arden, qui est un chef américain. Donc, voilà, on est parti dans ce projet qui est un projet surtout culturel, puisque le Mob Restaurant à Brooklyn, c'était à la fois un lieu de travail artistique, il y avait un jardin derrière dans lequel on faisait un stand de projets culturels, et puis c'était accessoirement un restaurant, c'était aussi un lieu dans lequel on permettait aux fermiers de l'État de New York de venir vendre leur production, des artichauts, des asperges, des champignons, etc., des maraîchers aussi un peu. Donc voilà, donc c'est devenu un lieu un peu assez atypique, qui avait sa propre communauté locale. Puis après, on a vu apparaître des gens un peu plus célèbres qui nous ont fait, entre guillemets, l'honneur d'adouber notre démarche, qui a été dès le départ, qui était une démarche, c'est vrai, militante, mais qui était une démarche non moraliste.
Qui est assez inclusive, j'ai l'impression, puisque tu permettais aux agriculteurs aussi d'exposer leurs produits. Donc, c'était assez encourager le local, mais finalement, le rendre ça un peu sympa.
De le rendre déjà accessible, c'est-à-dire de le rendre accessible à des territoires comme Brooklyn où il n'y avait pas ce lien direct avec les fermiers, puisqu'il fallait aller à une heure de New York pour organiser tout ça, avec un système de distribution également de l'ensemble de leur production. Donc tout ça créait un univers, encore une fois, tourné sur la culture également.
Et pourquoi vegan ? D'où venait ton engagement ?
Alors, c'est une histoire d'amour. Alors oui, c'est une histoire d'amour parce que c'est ma femme qui l'est depuis toujours. Enfin, quand je dis depuis toujours, je pense depuis qu'elle a une dizaine d'années à peu près.
Elle n'a jamais aimé.
Donc, alors elle a jamais, alors elle a jamais vraiment aimé. Et puis après, quand elle a décidé de l'être, elle est jamais revenue en arrière. Donc moi, c'est vrai que venant de Toulouse, moi je suis né dans le Sud-Ouest, donc je.
On en parlait juste avant.
Voilà, j'ai vécu un peu dans l'univers des canards et des voilà. Donc j'étais pas vraiment culturellement, je dirais, aussi bien dans ma culture originelle, celle de mes ancêtres ou la mienne familiale, si vous voulez. Ce sujet-là du végétarien ou du végan n'était pas un sujet qui taraudait ma culture. Et c'est vraiment en étant d'abord amoureux, c'est vrai, et puis en étant aussi aux côtés femmes. D'elle, voilà, que j'ai commencé en fait plutôt à lire ce qu'elle lisait, et puis après ça m'est apparu effectivement comme une forme d'évidence.
Je crois que c'est amusant aussi de découvrir une nouvelle façon de s'alimenter. Je pense que c'est aussi ce que tu as voulu transmettre dans tes restaurants.
Je pense, en tout cas, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est deux choses. D'abord, c'est dépoussiérer un peu l'idée, si tu veux, du restaurant vegan dans lequel t'arrives, ça sent l'encens indien et t'as la musique indienne, hein, si tu veux. Enfin, enlever le côté peut-être, tu vois, hyper sociologique, tu vois, et un peu tarte à la crème.
Limite sectaire, un peu.
Cucu la praline, de mon point de vue. Parce que là, après, tu restes entre communautés et puis tu convaincs personne. Et à la fois, il y avait cette obsession du goût, c'est-à-dire, tu peux pas demander aux gens de passer d'un régime carné à un régime vegan en leur disant, écoute, voilà, ça va être un peu pourri, ça va être un peu de la merde, mais bon, il faut que tu te sacrifies, parce que j'ai toujours pensé, comme beaucoup d'ethnologues, et je ne le suis pas, mais en lisant beaucoup cet univers, la question du repas est quelque chose qui est absolument essentiel à la construction de l'homme. C'est un moment social, c'est un moment familial, c'est un moment de construction, c'est un moment où on apprend à gérer les silences, on apprend à gérer la parole, à gérer du respect aussi. Et donc, la question du repas, c'est pas au-delà même de l'aliment lui-même, c'est quand même une preuve de civilisation, une preuve de civilité. Il y a y compris la politesse dans le repas. Hein. Donc, toute cette dimension-là me paraît être en fait un décorum, un théâtre, au cœur duquel il faut que la qualité de l'alimentation soit gustative. Et donc, notre obsession, et c'est pour ça que j'ai fait appel à Sand de Reims à cette époque-là, c'est que je me dis, bon, je vais aller prendre un chef 3 étoiles, Michelin, comme je le connaissais bien et que j'adorais Alain, parce que c'était à la fois un homme très cultivé et quelqu'un à la fois d'assez punk, puisque ça a été le premier chef à rendre sa 3e étoile.
Hein, Michelin, et puis, je pense que tu voulais le convaincre.
Mais ça, j'ai pas mis longtemps. Hein. Franchement, on a eu une discussion. Lui-même était convaincu qu'on arrivait au bout d'un système. Donc ça aussi, c'était intéressant. Et l'idée, on s'est retrouvé sur cette formule « vegan food for carnivores ». Donc c'était aussi un moyen de dire « voilà, notre bouffe, elle n'est pas réservée aux militants véganes ».
Et c'est Mob. Comment c'était le dernier projet, finalement ?
Alors, Mob, c'est mon dernier projet, oui. Alors, c'est un projet que, effectivement, on a commencé, donc, juste après. Donc, je parlais de 2009, Mob restaurant à Brooklyn. Et puis, quand j'ai quitté l'aventure avec mes amis de Mama Shelter en 2014.
T'es parti de là-bas, du coup?
Ouais, je suis parti.
T'emmènes ta femme avec toi?
Non, je suis parti.
Tu l'as laissé là-bas?
Non, en fait, de 2009 à 2014, je suis entre Paris et Brooklyn avec ce restaurant. Et puis en 2014, je quitte l'aventure Mama Shelter, d'ailleurs en restant en grande fraternité avec Serge Trigano et sa famille. Et je décide à ce moment-là de créer Mob Hotel, puisque j'ai créé ce petit univers à Brooklyn. Et je me dis, tiens, ce sera intéressant de poursuivre cette aventure sur le territoire qui est le mien, à savoir la France. Et c'est comme ça que je me retrouve à Saint-Ouen et que je commence le premier Mob Hotel à Paris-Saint-Ouen, qui est un choix.
Sur le même ADN que...
Oui, alors avec une modification qui a été mon écoute de mes équipes, de ceux qui bossent avec moi, qui sont souvent beaucoup plus jeunes que moi, et qui m'ont dit, Cyril, je suis OK, on va à Saint-Ouen, on prend du risque sur la destination et tout, mais s'il te plaît... ne nous fais pas un restaurant vegan parce que on n'aura personne. Déjà, il faut attirer les gens et les touristes pour les amener à Saint-Ouen.
C'est vrai que c'est audacieux.
Donc voilà. Donc au début, j'étais hyper énervé. Je disais ouais, mais attendez, c'est une forme de trahison. Et c'est un peu vrai, hein, quelque part. J'ai baissé la garde sur ce sujet-là parce que je pense qu'ils avaient raison de me conseiller ça. Mais c'est pour ça que j'ai des gens qui m'entourent, hein, des gens que j'écoute. Après, j'ai aussi des convictions sur lesquelles je ne bouge pas. Mais là, j'ai jugé effectivement que ma prise de risque d'aller sur un territoire où, qui n'est pas un territoire naturel du tourisme parisien, hein, à part les puces, évidemment, qui là est un vrai lieu à la fois d'écologie sociale pour moi, puisque il y a plus d'un siècle et demi, c'est là où ce qu'on appelle aujourd'hui le recycling, c'est là où nos ancêtres ont créé un lieu admirable, unique au monde, qui redonne vie à des objets, à des matières, et qui permet d'arrêter de consommer un peu comme des barjots. Donc voilà pourquoi on s'est posé dans ce territoire de Saint-Ouen. Je connaissais aussi beaucoup de monde là-bas, je connaissais un peu d'acteurs associatifs, culturels, et j'ai trouvé assez légitime. Je voulais pas être à Paris, d'abord parce que je savais que je ne pourrais pas me payer un lieu comme je voulais faire à Paris, puisque je voulais beaucoup d'extérieur, beaucoup de jardins, beaucoup de terrasses pour y faire des événements, avoir nos potagers. On a à peu près presque une cinquantaine de potagers avec nos voisins dans
mon côté. Un vrai
lieu
de vie, en fait, comme tu avais fait là-bas. C'est vraiment ça.
Ouais, un lieu de vie, un lieu de...
De rencontre, d'échange, d'inspiration.
Ouais, je pense en tout cas, ce qui m'a inspiré dans Mob à Saint-Ouen, c'est vraiment des voyages que j'avais fait en Andalousie. Moi, je suis assez admiratif de la vie andalouse. Et je trouve que, vous voyez, sur les sujets d'écologie, justement, c'est une ville qui a à peu près 1000 ans d'avance sur nous, puisqu'ils étaient confrontés à des problématiques de chaleur depuis 1000 ans. Les 50 degrés, ils les connaissent depuis très longtemps à Séville. Et donc, ils ont organisé leur ville et leur vie en rapport avec cette réalité. Et donc, pour moi, souvent, je dis, voilà, une des villes qui a vraiment anticipé ces problématiques avant la connaissance de ce réchauffement climatique.
Pourquoi on ne les suit pas dès maintenant,
Pense que c'est trop tard, parce que vraiment, ils ont construit leur ville comme ça, avec des bâtiments de peu d'étages, avec des petites ruelles, avec des fenêtres extrêmement petites, cette couleur blanche, des petites cours intérieures qui permettent de créer des espaces d'air, avec un peu d'eau qui coule.
Beaucoup de
toujours.
Clim ou pas?
Non. Et les petites maisons que vous voyez à Séville, par exemple, elles n'ont pas de clim. Hein. Les gens font, ils ont fait justement des cours intérieurs pour faire circuler l'air. Vous avez des plantations qui sont adaptées à des climats qui sont des climats très chauds. Donc, des plantes qui n'ont pas besoin d'être arrosées 24 heures sur 24. Et puis, cette circulation de l'air, une espèce de... Vous voyez, de paillassons tressés qui mettent au-dessus des fenêtres, vous voyez, pour protéger la fenêtre, pour pas que le soleil tape sur la fenêtre, des volets.
On risque de se prendre une grande claque, nous, quand le réchauffement climatique va vraiment...
Si vous voulez, moi, je pense que c'est la claque, elle a commencé déjà. Donc, si vous voulez, je pense que la question du réchauffement, c'est pas demain. Le truc a déjà commencé très clairement. Il suffit d'aller dans les territoires où on peut le sentir. Voilà.
Oh là là, mais je sais pas comment on va faire. Enfin, c'est des questions qu'on commence à se poser, mais le problème, c'est qu'on met des clims, on essaye de mettre des pansements. Ouais. Mais à un moment, la clim fait qu'empirer le réchauffement climatique aussi, donc il y a un petit problème.
Alors, moi, j'ai un avis. Je pense il y a une génération qui va avoir comme choix unique de s'adapter. C'est-à-dire que, on va vivre dans, si vous voulez, le décorum de nos appartements avec des chaleurs et on fera avec. Et on sortira moins et on sortira plus le soir. Vous voyez, quand vous allez en Andalousie, par exemple, vous avez la vie qui commence très, très tôt le matin. Hein, les gens vont travailler très, très tôt. Ils s'arrêtent de travailler à l'heure du repas. Et ils reprennent, certains d'entre eux, à 18h ou 19h. Donc, il va y avoir une adaptation totale de nos vies par rapport à la gestion de cette augmentation de chaleur, notamment dans les métropoles. Hein, surtout dans les Paris va devenir une ville invivable. Et on a beau mettre 4 pots de fleurs et 3... Vous voyez ce que je veux dire, enfin, les mesures qui sont prises aujourd'hui ne sont pas à l'échelle de ce qu'il faut faire.
On va tous filer en Bretagne.
Oui, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il ne faut pas venir transporter le problème en Bretagne. Mais je pense que, si vous voulez, en fait, pour moi, il y a une génération qui a connu le monde d'avant, qui va être forcée de s'adapter. Et puis, vous avez toute une nouvelle génération de gens qui vont... ils vont vivre dans ça. Et ils vont...
Ça va être automatiquement.
Et ça va être leur vie, leur quotidien. Et voilà.
Parle-moi du mouvement Mob.
C'est un mouvement qui est fondé, je dirais, sur une démarche qui est de lier ou de nouer la culture et l'agriculture autour de l'écologie sociale, c'est-à-dire de ne pas opposer la question d'une réflexion sociale et culturelle de la vie des hommes avec celle de l'écologie. Je rappelle souvent que cette dimension de l'écologie sociale est née en 1970 quand au Muséum d'Histoire Naturelle de New York, il y a eu une exposition sur la responsabilité des hommes dans le réchauffement climatique hein, et la destruction des paysages. Je préfère dire la destruction des paysages que la biodiversité. Personnellement. Et si vous voulez, il y avait à la fin de cette exposition, il y avait on finissait par un miroir, hein, et donc les visiteurs finissaient par un miroir, et il y avait une phrase au-dessus de ce miroir qui disait l'espèce la plus dangereuse pour la planète, et donc vous vous voyez vous-même dans le miroir. Et en fait, l'écologie sociale est née d'une réaction de refus par rapport à cette démarche. Si vous voulez, quelqu'un comme mon père, qui était ouvrier, typographe, qui avait une voiture diesel pour aller gagner un SMIC, n'est pas coupable comme le président de Total ou le président de la République. Tous les humains n'ont pas une égalité de responsabilité par rapport à ça. Et c'est souvent ce que je reproche à mes petits camarades écologistes, notamment ceux qui sont engagés dans, qui font profession, je dirais, de faire de l'écologie politique, c'est de s'attaquer au peuple de mon père, hein, ceux qui effectivement aimaient, pour résumer, les Tours de France. Alors mon père, on n'avait pas de petit sapin de Noël, nous, mais on avait autre chose. Mais si vous voulez, j'aimerais que, par exemple, les maires qui dirigent les grandes villes de France aujourd'hui, écologistes, s'attaquent aux 20 plus grandes boîtes françaises qui produisent de la destruction, si vous voulez, du bien-être.
Mais il y a quand même un effort de ces boîtes de plus en plus.
Oui, mais je pense qu'on est on n'est pas à la hauteur du combat. Je pense que il faut qu'on dénonce un système capitaliste, si vous voulez, qui tourne en rond, qui détruit les hommes et qui détruit la planète, qui crée un système dans lequel nous sommes presque d'être des esclaves heureux. Et donc, je pense que effectivement, il y a une obligation de changement de paradigme par rapport au capitalisme lui-même. Je ne suis pas moi pour une révolution au sens, si vous voulez, classique du terme. Mais je pense qu'il faut inventer un nouveau paradigme qui arrête de construire des inégalités sociales et des empires qui deviennent finalement des empires humains, hein, puisque vous avez aujourd'hui une dizaine ou une vingtaine de personnes dans le monde qui sont presque plus importants que des États. Et donc ça, c'est un vrai problème d'égalité entre les humains. Et cette fabrication à la fois du consumérisme et les inégalités sociale, c'est une plaie, c'est une lèpre qui est en train de s'emparer du monde et qui soit va nous pousser dans des révolutions et des instabilités permanentes, et c'est ce que nous vivons en France aujourd'hui avec, de mon point de vue, une instabilité grandissante, assez terrifiante. Et je vois, moi, des tensions entre les territoires, entre les villes, entre les communautés, et on fait plus peuple.
Mais tu m'as l'air pessimiste alors que je te pensais un peu optimiste quand même.
Alors, c'est
un optimiste sceptique, tu vas me dire.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, je suis pas esclave de mon optimisme. C'est-à-dire que c'est vrai que je fais des projets, donc on pourrait dire que, si tu veux, d'ailleurs, je gère mes contradictions. Souvent, je dis à ceux qui m'interrogent, c'est vrai que si je voulais être cohérent par rapport à mon diagnostic, j'arrêterais de faire des projets. Tu vois, parce qu'évidemment, quand je fais des hôtels, évidemment que je crée de la demande, du consumérisme, etc.
On pourrait même se tirer une balle, comme ça on est sûr de plus avoir de...
Voilà, donc je gère mes contradictions et donc je réclame pas du tout un traitement de faveur, tu vois, que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons compris l'enjeu, que de toutes les façons, il faut entrer dans cet enjeu avec une forme de panache poétique, c'est-à-dire que c'est un combat qui est un tout petit peu perdu d'avance. Mais il faut témoigner de notre humanité et surtout ce que nous pouvons protéger, c'est la conscience humaine, c'est la fraternité.
Pour Yann Arthus Bertrand, c'était l'amour le mot. Toi, j'ai l'impression que c'est l'humanité. Finalement, ça se rejoint.
Oui, je pense que on a une conviction, effectivement, la fraternité, l'amour, ce qui nous unit en tant qu'humains.
Tu vois, par exemple. Qui va nous sauver, peut-être.
Ben, je ne sais pas si ça va pas nous sauver, parce qu'il va y avoir des conséquences dans un certain nombre de territoires. On le voit très bien, on le sent très bien arriver. Il y a des exemples rationnels de ça. Mais ce qu'il faut surtout, de mon point de vue, garder en tête, c'est il ne faut pas, si tu veux, créer des divisions entre les humains. Moi, ce que je, enfin, un de mes projets, y compris avec Mobotel, c'est cet objectif un peu utopique d'apaiser le monde, d'apaiser le quartier dans lequel je suis. C'est de tenter des paradigmes nouveaux, d'essayer au travers de nos potagers, par exemple, de voisins, de faire se rencontrer des gens qui ne se parlent pas en tant que voisins, parce qu'ils sont de différentes cultures ou de différentes classes sociales. C'est d'organiser des conférences, d'organiser des lectures de poésie, d'accueillir des hommes et des femmes qui viennent d'à côté ou du monde. Et voilà, donc moi, ma solution, elle est devenue très microscopique. Je ne sauverai pas le monde, je reste dans ma catégorie, qui est de tenter de faire des petites initiatives pour créer des paradigmes nouveaux qui sont soumises à critique, que tout le monde peut critiquer. Et j'invite ceux d'ailleurs qui les critiquent à créer eux-mêmes leur propre paradigme.
On va venir voir, tout simplement. Ouais. Y aller, on vient voir. Rendre.
Ouais. Oui, tout à fait.
Tu les accueilleras avec plaisir.
Ah, mais non, mais toujours, toujours, hein, avec sourire. Ouais.
Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Encore 36 000 projets pour les 50 prochaines années?
Non, je crois pas que ce soit les projets. C'est de continuer à, surtout travailler avec mes équipes, à prendre soin d'elles et d'eux, surtout de transmettre. C'est un peu mon obsession aujourd'hui. C'est de comment je vais transmettre, non pas à mes enfants, mais à, j'ai 4 enfants, mais donc c'est, pour moi, la transmission, c'est pas à mes enfants, c'est voilà, c'est à celles et ceux qui travaillent avec moi, qui me permettent de créer. Donc ça, si j'ai besoin de bénédiction de ta part, voilà, c'est de réussir ça, et puis d'affronter avec beaucoup d'apaisement l'automne qui est le mien et l'hiver. Hein, puisque je dis souvent, voilà, je suis à l'automne de ma vie.
Hein. Bon, mais je trouve ça.
Ouais, mais c'est l'automne. Ouais, c'est le début de l'automne. Hein. Ah, j'ai laissé passer le printemps et l'été. Mais franchement, c'est une saison.
C'est la pire saison, là.
Ah, mais non. Alors, l'automne, je trouve ça splendide. Je trouve qu'il y a des couleurs en automne qui sont magnifiques. Alors après, peut-être que je me dis ça parce que devant le fait accompli et sachant que je peux pas revenir au printemps ni à l'été, tu vois, je me suis peut-être raconté une petite histoire qui me va bien. Mais encore une fois, tu vois, voilà, j'ai appris à accepter les choses. La spiritualité aussi m'aide beaucoup, la croyance, l'étude me permet d'avoir une vision du monde plus apaisée, peut-être plus large aussi, hein, parce que finalement, croire, c'est aussi reporter dans la vie d'après ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Mais je ne suis rien de plus ni de moins qu'un être humain, et donc la spiritualité m'aide à tenir et à être peut-être un homme plus ou moins meilleur que ce que je pouvais être avant. Et donc voilà, donc je vais aller sur les chemins de l'automne et de l'hiver avec beaucoup de tendresse pour mes sœurs humaines et mes frères humains. Et voilà ce que tu peux me souhaiter.
Ben, j'espère que Alice, tu auras au maximum inspiré nos auditeurs.
Avec plaisir.
Et je pense que moi, en tout cas, tu m'as énormément inspiré. Et j'ai envie d'aller voir de mes propres yeux aussi le mode.
Ah ben, tu es la bienvenue quand tu veux.
C'est avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.